En attendant, Paloma étala sa carte de la Seine-Maritime sur la table. « Je suis pourtant certaine d'être proche de la solution, » bougonna-t-elle.
« J'espère, » fit tranquillement Bergton. « Nous avons fini notre tour de Normandie. Je vous ai livré tout ce que je sais. Vous avez tout vu. Je vous ai montré tous les sommets de l'œuvre de Leblanc, Étretat, Dieppe, Jumièges. »
Écoutant distraitement, Paloma faisait jouer la lumière de son collier d'argent et cristal sur la carte. Elle stoppa brusquement son geste.
« Qu'avez-vous dit ? »
cria-t-elle.
« Rien, je ne sais pas, je parlais de Leblanc. »«
Non, votre dernier mot. »«
Jumièges ? » ?»«
Non, avant. » »«
L'œuvre de Leblanc ? Les sommets géographiques de son œuvre ?»«
Mon Dieu, bien entendu, c'est ça !»«
Quoi, qu'est-ce que j'ai dit ?»
À ce moment précis, le téléphone portable du professeur sonna, indiquant qu'il avait un nouveau message.
« Si c'est encore cet emmerdeur de Martinez, » grogna-t-il.
Paloma n'entendit même pas la sonnerie. Elle utilisait la tranche de son bloc-notes et traçait au marqueur des lignes étranges sur la carte. Bergton lut son message. « Dernier avertissement. Renoncez avant qu'il ne soit trop tard. Ensuite, je serai contraint d'agir. Roberto Martinez, la folie.
Ah, toujours lui !»
cria énervé Bergton. Mais Paloma ne l'écoutait pas. Elle releva la tête.
C'était encore lui, fit Bergton consterné.
Qui ça, lui ?
Bergton observa soudainement le visage transfiguré de Paloma. Il sut à ce moment-là qu'elle avait trouvé. Qu'elle avait résolu une première partie de l'énigme. Il avait toujours su que ce petit bout de femme avait des talents de déduction tout à fait exceptionnels. Dès la première fois qu'il avait croisé son regard au premier rang de l'amphithéâtre de l'université, et aussi un peu tout de même après avoir lu ses dissertations.
« Qui ça, lui ?»
redemanda Paloma.
« Aucune importance, » trancha Bergton. « Expliquez-moi !»
Paloma bafouilla, excitée.
Vous avez parlé des sommets de l'œuvre de Leblanc. Trois sommets. Trois sommets d'un triangle. Regardez, prenons les trois principaux centres des aventures de Lupin. Celles qui contiennent les trésors ou leurs clés. L'ensemble Bénouville-Étretat. L'ensemble Embrumésie-Gueur. Le Ménil sous Jumièges avec le manoir Agnès Sorel et la pierre de la Reine. Trois toutes petites régions. Les trois seuls coins du Caux dont Maurice Leblanc nous parle à la fois dans l'Aiguille Creuse et la Comtesse de Cagliostro. Les trois seuls où se mélangent les protagonistes des deux romans à quelques kilomètres près.
Jusqu'ici, je vous suis.
Regardez, j'ai entouré ces trois points sur la carte. Maintenant, relions entre eux ces trois sommets. Qu'obtenons-nous ? Un triangle équilatéral parfait. Oui, vous entendez, professeur ? Parfait ! Exactement à chaque fois 55 kilomètres de côté. Qu'en dites-vous ? Et si c'était lui, le fameux triangle cauchois ? Le fameux triangle d'or ? Et si le triangle banal Rouen-Dieppe-Le Havre n'était qu'un leurre, encore un de ces doubles lieux si chers à Maurice Leblanc pour détourner l'attention ?
Bergton observa la carte en silence. Effectivement, un triangle équilatéral parfait relier les trois sommets des romans cauchois de Maurice Leblanc.
« Il faut trouver le centre du triangle !» cria Paloma excitée.
« Rien de plus simple !» fit Bergton excité à son tour. « Il suffit de tracer les trois bisectrices. Tout élève de sixième sait ça !»
Paloma releva un instant les yeux, semblant signifier qu'elle n'avait pas besoin de conseils aussi rudimentaires. Avec une feuille, elle mesura un côté du triangle, d'Étretat, au Ménil sous Jumièges. Elle replia la feuille et entoura le lieu qui coupait exactement en deux parts égales le côté. Elle émit un sifflement.
L'abbaye de Gruchet, une des sept abbayes,
et le lieu d'un cambriolage de Lupin, signalé par Maurice Leblanc, ajouta Bergton.
Avec la tranche de son bloc-notes, elle traça la première bisectrice, la droite qui allait du sommet opposé, Gueur Embruménil, à ce point, Gruchet, coupant le côté opposé à angle droit. Bergton regarda la carte. Il se pencha dans son sac et en ressortit une règle pliante. Il la déplia et demanda à Paloma
« Prolongez cette droite, au nord et au sud, en dehors du triangle. J'ai une intuition terrifiante. »
Paloma s'exécuta. À sa grande stupéfaction, en prolongeant la droite au nord, elle rejoignait exactement la mer à Biville-sur-Mer, et plus précisément au lieu dit de la Neuvillette.
« C'est stupéfiant !» fit Bacton. « Prolongez la droite au sud !»
La droite tracée par Paloma passait exactement par Honfleur, puis se superposait avec le trait de la côte fleurie de Trouville à Cabourg, pour ensuite passer par le centre de Caen.
« Ce coup-ci, il n'y a pas de lien avec Lupin, »
fit Paloma, déçue. Bacton lui répondit, blême,
« Je ne vous ai pas parlé de Lupin et la Basse-Normandie. Avant de percer le secret de l'aiguille, Boutrelet déjeune avec Herlock Sholmes, qu'il rencontre par hasard, à Honfleur. Dans Arsène Lupin contre Herlock Sholmes, la mystérieuse Dame Blonde séjourne à l'hôtel Beau Rivage de Trouville. Dans La Cagliostro se venge, deux lieux sont cités, Cabourg et Caen, où réside et se promène l'industriel Georges Dugrival. »
Paloma garda le silence, stupéfaite à son tour. Bacton explosa.
Rendez-vous compte, la bisectrice de ce triangle passe par les trois seuls lieux du Calvados cités par Leblanc dans toutes les aventures de Lupin. Cela ne peut pas être une coïncidence.
Mais déjà, Paloma traçait la seconde bisectrice. Bacton prit une serviette pour s'éponger le front, couvert de sueur. La seconde bisectrice partait du sommet de Bénouville-Étretat jusqu'au milieu du côté opposé. Elle reposa son marqueur et regarda Bacton avec stupeur. Le milieu du côté était proche de Hierville et la bisectrice passait exactement par Thibert-Ménil.
« C'est fabuleux !» répéta Bacton, incrédule.
« Fabuleux ! Prolongez la droite, vite ! Si l'on tombe encore sur une aventure de Lupin, le doute n'est plus permis. Pas à l'ouest d'Étretat, Paloma. Il n'y a que la mer, à l'est !»
En ce moment de grâce, Paloma trouva la présence d'esprit de penser que si un jour elle devenait professeur, elle espérait ne jamais atteindre un tel niveau de suffisance. Elle prolongea la bisectrice plein est. La droite passait très exactement par le village de Montérolier.
« Nom de Dieu !»
gémit Bacton.
« La scène finale du mystérieux voyageur, la fameuse poursuite, le seul lieu cité par Leblanc dans toute cette partie nord-est du département. Cela ne peut pas être une coïncidence.
« Vous pensez vraiment ?»
demanda Paloma, à la fois ironique et agacée. Elle traça la troisième bisectrice sans attendre que le professeur ne lui demande. Elle partait du Ménil sous Jumièges pour couper le côté en face, à Claville, puis rejoindre la mer à Veulettes-sur-Mer. Bacton fut un peu déçu.
Claville ?
Lupin a effectué un cambriolage dans le pays de Caux, à Craville, mais il n'existe pas de Craville dans le pays de Caux. On peut penser que c'est Claville transformée. Mais par contre, pour Veulettes...
Ne soyez pas si impatient, coupa Paloma. Les explications complémentaires viendront en leur temps. Patience. Nous ne sommes qu'au début de la résolution de ce jeu de pistes.
Et vous avez raison.
Si on prolongeait les droites de chaque côté du triangle.
Bonne idée,
acquiesça Paloma. Elle prolongea le segment Étretat-Gueur.
Mon Dieu,
articula Paloma. La droite passait par la forêt d'Arc et la commune d'Anvermeux, les deux seuls lieux du petit Caux cités par Maurice Leblanc dans L'Aiguille Creuse.
C'est prodigieux,
continua Bacton en s'épongeant à nouveau.
Ça ne peut pas être une.
Non,
coupa Paloma.
Ça n'en est pas une.
Elle prolongea un autre segment, d'Étretat au Ménil sous Jumièges. La droite passait par La Bouille et descendait ensuite dans l'Eure.
Elle passe par la gare de Saint-Pierre-du-Vauvray,
dit Paloma avec enthousiasme.
Mais ensuite, Elle passe par Gaillon. Pas de Lupin à Gaillon, professeur ?
Une nouvelle fois, Bergton blêmit.
Gaillon. Mon Dieu, c'est véritablement fascinant. C'est un des épisodes importants de L'Aiguille creuse. L'un des détenteurs du fameux traité de l'aiguille, vous vous souvenez, le livre du masque de fer, fut assassiné à Gaillon. Boutrelet va y enquêter, il y rencontre même un vieux notaire érudit qui n'est autre que Lupin, déguisé. Dois-je également vous avouer que pour les chercheurs de trésors, le château de Gaillon est un lieu sacré, une porte d'entrée du mystère des Templiers ?
Interloqué, Paloma prolongea le dernier côté, Cœur-Ménil sous Jumièges. Si au nord, elle rejoignait la mer à Varangeville, un lieu entouré par Paloma, au sud, la droite passait par diverses communes de l'Orne, non citées dans les aventures de Lupin, L'Aigle, Mortagne-au-Perche. Bergton s'épongea une nouvelle fois le front. Paloma se calmait progressivement.
Vous savez, monsieur le professeur, même si cette découverte semble prodigieuse, il ne faut pas nous emballer. Je crois que nous ne sommes qu'au début de nos prospections. Ce triangle, ces droites, ces lieux. Il y a sans aucun doute autre chose à découvrir. Quelque chose de moins évident, de moins figé.
Que voulez-vous dire ?
Je ne sais pas encore. Une intuition confuse.
Paloma posa sa main sur la carte, recouvrant la plus grande partie du centre du triangle parfait. Elle regarda Bergton, les yeux brillants de fierté, et dit
« Tout d'abord, il faut commencer par le centre du triangle, le point d'intersection des trois bisectrices, la clé sans doute du code Lupin. Êtes-vous prêt à le découvrir ?»
Le professeur et l'étudiante échangèrent à cet instant un regard d'une grande complicité, une fierté et un respect mutuel. Bergton posa à son tour sa main sur celle de son étudiante.
Ensemble, ma colombe, ensemble.
Paloma hésita un instant à appeler le professeur Bergton par son prénom, mais finalement se retint.
Maintenant.
Ils soulevèrent ensemble leurs mains. Les trois bisectrices se rejoignaient au cœur du pays de Caux, légèrement à proximité d'Héricourt-en-Caux. Paloma interrogea Bergton du regard, confiante en son érudition.
« On y va !»
dit-il pour toute réponse. Il consulta sa montre, 20h45.
« On a tout juste le temps, je réfléchirai en route. »